remercie de me recevoir. Je ne suis pas mathématicien de formation, mais la rencontre de René Thom, vous allez vous rendre compte, a provoqué chez moi une passion renaissante pour les mathématiques il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai eu la chance de le rencontrer. Et lorsque Jean-Marc Desouillet, que vous entendrez, je crois, dans le mois prochain ou dans deux mois, qui est mon président, donc l'Association des Amis de l'IHES, m'a demandé d'intervenir, je l'ai fait avec un peu de crainte, parce que je ne savais pas si j'aurais un auditoire difficile. J'ai bâti une petite intervention, essentiellement basée sur de la visualisation et la recherche d'une performance intuitive. Donc, évidemment, il ne faut pas attendre des présentations, quelque chose de très rigoureux d'un point de vue mathématique, mais quelque chose qui est destiné à vous donner une première approche de ce qu'a été surtout la théorie des catastrophes, puisqu'elle est tombée un peu en désuétude ces dernières années, ayant eu des heures de gloire au début des années 70, ce qui a donné lieu d'ailleurs à des critiques très très vives et des combats difficiles pour les tenants et les opposants de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des catastrophes. Alors dans le titre « Normes d'une science de l'acceptable », vous avez, je crois exactement ce dont il s'agit, même si c'est de manière un peu cachée, « normes » parce qu'il s'agit de classer un certain nombre de choses, « science » parce que malgré tout il y a un vocabulaire, un langage de type mathématique, et « acceptable » parce que quelque part il s'agit d'approcher ou de tenter d'approcher quelque chose qui est un peu flou. Et vous verrez que approcher la réalité avec des outils tels que le propose la théorie des catastrophes bien nous conduit quand même à avoir des outils un peu ou des recherches un peu approximatives. Alors quelques photos de René Thom qui est décédé en 2002, donc c'est juste quelques slides pour vous présenter celui qui est un peu le père fondateur de cette théorie. Vous voyez, il a une coupe de cheveux que l'on remarque très vite. Donc, vous avez ici la maquette de ses œuvres complètes qui sont éditées à l'IHES. Et je vous ai marqué en bas, je pense que je ne masque pas le site de l'IHES que je vous invite à visiter pour voir un peu ce qui s'y passe, mais enfin, je vous reparlerai un petit peu de l'IHES à la fin. René Thom, donc mathématicien sociologiquement, comme il aimait à le dire, né en 23 à Montbéliard et décédé en 2002 à Bure-sur-Yvette dans l'Essonne. Montbéliardais, vous voyez un peu à quoi il ressemblait, et pour vous donner un peu le son de sa voix, si vous écoutez Jacques Santini, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne et ancien responsable de l'équipe de France de foot, vous avez un peu le son de la voix franc-comtoise qui était aussi la sienne. Alors, il est essentiellement connu pour un certain nombre de choses au point de vue mathématique, René Thom. Le cobordisme, alors je ne vous dirai pas là ce soir ce que c'est que le cobordisme, mais c'est ce qui lui a valu une récompense, qui est la récompense suprême des mathématiciens, c'est-à-dire la médaille Fields Medal, qui est l'équivalent, comme on se plaît à le dire, du prix Nobel en mathématiques. Et deuxième chose qui l'a rendu célèbre, c'est justement la structuration ce qu'on appelle, et qui nous réunit ce soir, la théorie des catastrophes. À côté de cela, parce qu'il a abandonné un peu son métier de mathématicien aux alentours des années 60, il s'est intéressé à la philosophie, d'ailleurs, du temps où il était encore à l'IHES. Quand on rentrait, on voyait les photos de tous les professeurs permanents, visiteurs, etc. Et sous sa photo, il y avait marqué « apprenti philosophe ». Vous voyez, donc il était très modeste vis-à-vis de cette discipline, essentiellement attiré par l'aristotélisme, mais quand même, comme tout mathématicien, un peu platonicien. Voilà, et humaniste et critique, car il a animé un certain nombre de combats pour soutenir le déterminisme face à l'indéterminisme, et un certain nombre de théories qui soutenaient la prééminence du chaos. Alors, les mathématiciens, là, je vais vous faire quelques diapositive pour essayer de vous dire comment les mathématiciens produisent des outils pour essayer de classer les objets qu'ils étudient de manière rigoureuse dans des classes unifiées, on va dire. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit les langages pour un univers en caoutchouc. Comment, quand un objet est pas gentil, c'est-à-dire quand il est mobile, quand il se range pas aux injonctions qu'on peut lui imposer d'être bien droit sur des axes, etc. Comment peut-on discerner des vraies différences de forme? Et comment peut-on faire pour essayer de mesurer des formes variables? Comment peut-on faire pour les classer, pour les combiner et pour les hiérarchiser? Alors, les mathématiciens, petit à petit, ont construit des disciplines, des outils, des langages qui leur permettaient de passer des fonctions continues que tout le monde a étudiées au lycée vers des langages plus souples et de manière à étudier les continuités de manière un petit peu plus élastique, un petit peu plus souple. Alors, c'est l'objet de la topologie en mathématiques, de se donner donc ces outils-là. Alors, un petit schéma, je pense que vous voyez un ballon de football ici, sagement rangé dans un repère avec ses axes X, Y, Z habituels. Jusqu'au lycée, on a un peu appris la cinématique de ces objets. On les traduit dans des formules qui se réfèrent à ces axes. Et dans la dynamique, vous voyez le ballon se déformer. Le problème est donc d'essayer de trouver un langage pour décrire comment décrire l'unité de cet objet malgré l'ensemble de ses déformations, qui admet quand même une limite. Et vous voyez que dans le carré de droite, la limite, c'est la discontinuité, c'est-à-dire le moment de rupture où l'unité du système, l'unité de l'objet, passe une certaine frontière et explose. Explose, se détruit ou change de forme. Et c'est là qu'on peut poser, l'idée centrale de la théorie des catastrophes, qui est une manière de décrire les discontinuités de forme à l'aide de modèles continus. Alors, pour décrire un objet, il faut le mesurer, il faut l'enserrer dans un espace que l'on maîtrise, il faut que cet espace nous propose des mesures possibles, donc une certaine métrique. Et le mathématicien va faire tout son possible, non seulement pour se donner un langage qui est totalement cohérent, c'est-à-dire que les propositions ne doivent pas se contredire, mais si possible aussi, il doit pouvoir mesurer les objets qu'il installe dans ces espaces complètement maîtrisés. Et lorsqu'on aura des problèmes pour ajouter des dimensions, parce qu'on a l'usage intuitif des trois dimensions de l'espace, éventuellement du temps, mais les mathématiciens travaillent aussi avec des espaces beaucoup plus larges que ça en termes de dimensions, eh bien, il faudra, et c'est la grosse difficulté du travail des mathématiciens, d'absolument contrôler le passage de ces univers ou de ces compléments d'espace qui sont nécessaires pour l'exploitation de l'étude et pour, si possible, être exhaustif dans cette étude. Alors, les mathématiciens se sont donné des outils. On a vu la topologie, je vous en ai parlé rapidement, qui est une manière de penser la continuité de manière un peu caoutchouteuse. Et ils ont réussi, là j'accélère un petit peu parce que je vois le temps qui passe, ils ont réussi à se donner des modèles, on va parler de ça en termes de modèles, qui sont un peu bizarres, quelquefois jolis, sur lesquels l'objectif, c'est de projeter, c'est d'appliquer un objet non connue, sur un objet par équivalence, par continuité, sur un objet déjà maîtrisé ou qui possède un certain nombre de langages qui sont parfaitement maîtrisés, éventuellement la possibilité aussi de mesurer des choses. Et on connaît un peu cette difficulté, vous savez, vous le disiez quand vous regardez des cartes de géographie, comment appliquer une sphère sur une feuille de papier plate pour lire sa carte, c'est possible, mais ça réclame un certain nombre de précautions parce que les distances ne sont pas conservées ou parce que les angles ne sont pas conservés, les courbures. Alors, voilà, donc le problème fondamental consiste à trouver la meilleure manière d'appliquer notre objet sur ces surfaces, dans ces espaces, d'en rendre compte du mieux possible avec des outils continus, des outils utilisant les grands théorèmes de la différenciabilité, comme on dit, voilà, pour essayer de proposer la description exhaustive, si possible, extensive, de ces formes bizarres. Alors, voilà, vous avez ici la figure d'un jeune garçon qui présente une singularité que nous avons tous quand on a des cheveux. Moi, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais ce fameux tourbillon derrière la tête, ou les épis, pour ceux qui ont des épis, vous observez que il est très très dur de peigner un hérisson. Il y a toujours, sur ces surfaces régulières, des endroits qui nous posent des problèmes. Voilà, donc des endroits singuliers. Et comme je vous l'ai marqué en dessous, c'est la singularité, c'est là où ça crie. C'est-à-dire là où une caractéristique émerge, une caractéristique qui résiste à notre volonté d'appliquer à cet objet une lecture parfaitement gentille, parfaitement harmonieuse, sans difficulté technique. Alors, sachez simplement que les mathématiciens, avec la topologie, avec aussi des concepts comme ceux de variété, se sont donné de quoi travailler ces notions et s'approcher des figures complexes qui présentent, lorsque on les réduit donc à des espaces beaucoup plus standards, ils présentent ces difficultés locales qu'on appelle donc des singularités. Alors, parmi ces langages, peut-être que vous y intéresserez ultérieurement, mais figure ce qu'on appelle la caractéristique de l'aire Poincaré, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais bon, c'est un exemple qui montre que la créativité des mathématiques, quand elle tombe dans un cerveau de génie, peut nous donner des outils assez performants pour comprendre ou pour calculer assez simplement des choses sur des formes qui se déclinent dans des dimensions importantes et nous permettent d'approcher ces phénomènes particuliers donc, qu'on appelle les singularités. Alors là, on va quand même... je ne sais pas si j'ai rempli mon office parce que je voulais... Vous me le direz ensuite, peut-être dans la discussion, mais ce que j'ai essayé à travers ces premiers clichés, c'était de vous faire rentrer dans un certain nombre de domaines qu'on n'étudie pas couramment au lycée ou dans les classes où on fait des mathématiques, mais c'était simplement pour vous dire qu'il existe des branches de la mathématique qui vous fournissent, qui sont susceptibles de vous donner des méthodes de classification assez fondamentales sur des objets, y compris intégrant des classifications d'objets ou de surfaces assez curieuses, et que ça se fait avec une certaine universalité, cette classification, et que on peut les décompter, on peut les hiérarchiser, et c'est ce langage que René Thom a utilisé, même si on ne le voit pas, dans sa technique de classification des singularités catastrophiques. Alors, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus concret. On va partir du modèle hydraulique. Vous avez sur votre gauche ici donc l'illustration d'une certaine topographie d'un secteur avec un lac qui, vous le voyez, est sur le point de se déverser dans la vallée. Si vous avez quelques souvenirs du lycée, vous vous souvenez que la force d'attraction terrestre, en fait, faisait que dans de telles configurations, la force s'exerce et a tendance à précipiter l'eau vers le bas, c'est-à-dire ici, selon des lignes de plus grande pente, vers la vallée. Alors, cette image vous rend compte, vous voyez à la vue de cette diapositive que si on fait un peu bouger la topographie du secteur, le lac, il va un peu se promener et éventuellement, il va brutalement se déverser dans la vallée. Et la brutalité de ce changement qui est dû à la modification de la configuration topographique des lieux, donc les paramètres qui vont jouer sur cette topographie des lieux, eh bien, en créant une rupture soudaine du col, que vous voyez ici, vous avez un col qui les sépare, ben, va effectivement donc précipiter le lac dans la vallée, et ce moment catastrophique, ce moment soudain, au fond, c'est ça qu'on appelle une catastrophe. Alors, de manière un petit peu plus illustrative, avec des schémas plus habituels, on peut... C'est comme si on avait fait une coupe de la diapositive précédente. On va travailler juste dans le profil. Hein. Donc, et vous voyez que, en passant des différents profils de vallées que l'on peut avoir, en passant de la ligne supérieure vers la ligne inférieure de gauche à droite, donc les bassins qui sont dessinés ici et qui varient en fonction d'un certain nombre de modifications déterminent des moments clés qui sont les moments comme ici où des vallées se creusent ou comme ici également où des puits se vident et se déversent dans des puits situés beaucoup plus bas. Alors, ce qui régit la force, la dynamique là, de ces schémas, c'est une équation générale du type, vous l'avez en bas, qui est en fait un potentiel, qu'on appelle ça en physique un potentiel de gradient. Et l'idée, pour vous montrer en quoi consiste la théorie des catastrophes sur ce schéma, c'est de faire varier, de perturber en quelque sorte le schéma général de base et de faire varier ici la lettre P, puisque l'illustration du schéma, c'est la formule que vous avez juste en dessous du cadre. Donc vous voyez que si on donne la valeur moins 15 à P, vous voyez qu'on a une configuration qui déjà s'infléchit. C'est plus évident en moins 8, en moins 4 encore. Quand P a la valeur 0, on se retrouve dans un système où il y a une sorte d'hésitation entre, ou d'équivalence entre les deux puits de potentiel, ici, qui sont susceptibles d'attirer, si c'est des vallées de l'eau, ou si c'est des billes, eh bien, donc selon la configuration. Et puis, en repassant dans les valeurs positives de P, on inverse le phénomène, et à nouveau, on se retrouve dans une configuration équivalente, mais symétrique. Et on ressent bien qu'autour de moins 8, moins 4, il y a un moment critique, un moment crucial, où en fonction de l'évolution du paramètre, eh bien, la situation change brutalement. Et ce changement brutal, c'est ce qu'on appelle une catastrophe, qui n'est pas forcément d'ailleurs catastrophe, quelque chose de catastrophique, mais qui signifie simplement un changement de forme, un changement qualitatif dans l'état du système. Alors, en règle générale, dans les phénomènes qu'on retrouve dans la nature et qui répondent à ce schéma-là, une première règle est constatable, c'est ce qu'on appelle la règle du retard, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, le lac qui était sur un puits de potentiel un minimum local, comme on dit techniquement, un minimum local du potentiel se déverse, avant qu'il se déverse effectivement, eh bien on attend le maximum. C'est au dernier moment, en quelque sorte, que le lac se déverse dans la vallée. Cette règle, qui est une règle très importante, s'appelle la règle du retard. Il en existe une autre, qui s'appelle la règle de Maxwell, qui dit simplement que chaque fois qu'on est en compétition, que chaque fois que deux attracteurs sont en compétition l'un avec l'autre, bien c'est toujours celui qui a la situation la plus forte qui l'emporte, sans attendre la règle du retard. Alors d'un point de vue un peu plus géométrique, ça nous donne la chose suivante, c'est-à-dire que selon la topographie, ici je ne sais pas si vous voyez, en faisant varier les paramètres sur les côtés, on a, si on suit cette ligne-là, avec un paramètre situé très bas par rapport à l'origine, et qu'on accentue le paramètre ici, U par exemple, on a un passage qui se fait lentement et de manière continue. Mais si, par rapport au paramètre T, on lui donne un peu plus d'importance, c'est-à-dire qu'on pousse le paramètre T ici dans le sens de la flèche, et qu'on conserve le même comportement par rapport au paramètre U, alors existe un point ici, un point très important, qui délimite les deux parties fondamentales de la surface, la partie lisse et la partie où va s'exprimer une discontinuité du secteur. C'est-à-dire que si j'ai une bille ici, elle va rouler gentiment le long de la ligne si je ne force pas le paramètre P, mais si ma bille est ici avec un paramètre P forcé, alors la bille va chuter, et la bille qui représente l'état du système, tout simplement, donc va subir un à-coup, qui peut très bien aussi retourner dans l'autre sens, ici, c'est-à-dire que le phénomène est éventuellement réversible. Alors je vous ai mis ici cette diapo parce que c'est un mathématicien britannique qui s'appelait Christopher Zeeman qui a en quelque sorte démocratisé la théorie des catastrophes vis-à-vis des biologistes et vis-à-vis des psychologues ou des éthologues. Il a essayé de modéliser avec ce schéma-là le mouvement de la fibre du myocarde, en sachant que la fibre du myocarde est soumise, donc il a sélectionné les paramètres, à deux paramètres, la différence de potentiel à travers la membrane, qui est représentée ici sur le schéma par le paramètre U, et puis un deuxième paramètre qui est la tension de la fibre, la tension du myocarde, qui est évidemment la résultante de la pression intracardiaque, et en faisant varier ces deux paramètres, eh bien, on se retrouve avec une fibre qui pulse et qui revient, c'est-à-dire un phénomène d'hystérésis. Voilà. Ici, vous avez une vue, je dirais, beaucoup plus sur le plan de cette zone. Je ne sais pas si vous la voyez en vert, ici. Mais elle délimite les points. Elle délimite les points sur lesquels se produit la rupture du système, c'est-à-dire le saut qualitatif qui amène un système à changer d'état. Et vous voyez qu'en fait, ici, donc, ça décrit une forme de courbe là, qui est une cuspide, et que le raisonnement qu'on a tenu, on l'a tenu en basse dimension, puisqu'on était dans un espace à trois dimensions avec simplement les deux dimensions du plan XY et l'état du système étant décrit sur la hauteur. Or, on peut augmenter le nombre de ces variables. Là, je viens de vous parler d'une fibre cardiaque qui est déterminée par des entrées qui sont la différence de potentiel et l'extension de la fibre. Mais un système, on peut le faire varier avec des stimulations extérieures qui ne sont pas simplement au nombre de 2, mais qui peuvent être au nombre de 3 ou au nombre de 4. Et à ce moment-là, la courbe que vous venez de voir sur la diapositive précédente, qui était simplement une cuspide, eh bien, elle va décrire à ce moment-là des surfaces. Vous reconnaissez ici la fameuse fronce que nous venons de voir, avec donc ici la pente qui permet au système de glisser d'un état vers un autre de manière continue, et ici de manière brutale en changeant d'état soudainement. En travaillant le même genre de considération mais sur des dimensions supplémentaires, les points singuliers, les ressauts de la fonction vont dessiner à ce moment-là des surfaces beaucoup plus compliquées qui sont un peu difficiles à voir parce qu'à ce moment-là, il faut faire des coupes dans l'espace à 3 ou à 4 dimensions, ce qui est un peu compliqué pour visualiser. Et simplement, René Thom, en travaillant sur ces sujets et en généralisant cette approche, a pu déterminer, alors c'est un travail mathématique assez long et assez difficile, dont je suis totalement incapable évidemment, mais a réussi à codifier et à classifier des équivalences de changement. Et ces équivalences de changement dans les formes, de morphologie donc, se classent en 7 familles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vous ai mis ici les noms de ces familles de référence, qui sont donc des catastrophes, des familles de catastrophes, en fait, qui à chaque fois sont génériques et qui sont déterminées par un certain nombre de choses assez simples, c'est-à-dire une, deux, trois ou quatre variables extérieures, donc variables de contrôle, donc variables que l'on fait rentrer dans le système pour le perturber, et une ou deux variables de sortie qui sont en fait les comportements du système. Alors le succès de la théorie, c'est ça, c'est le fait que dans des espaces de 3 ou 4 dimensions, quel que soit le système, quel que soit l'objet, en fait on arrive à un nombre réduit de figures de référence qui sont des surfaces de catastrophe. Vous avez ici alors les 7 catastrophes élémentaires, donc dont je viens de parler, qui ont des noms assez évocateurs à gauche, le pli, la fronce, la queue d'aronde, le papillon et 3 autres qui sont un peu plus techniques. Mais à droite, vous voyez la formule du potentiel, c'est-à-dire de la force qui s'exerce. Souvenez-vous, la force d'attraction qui s'exerce sur mon lac, sur ma goutte d'eau tout à l'heure, sur le schéma, et qui a une certaine formule. D'accord ? Cette formule est faite de 2 choses, un germe et une perturbation. Donc on pourrait amorcer une première définition de la théorie des catastrophes. Donc la théorie des catastrophes, c'est l'étude des points critiques, des familles de potentiels dépendant de paramètres, alors P paramètres de contrôle, c'est-à-dire ce que j'envoie dans le système pour le stimuler, pour l'exciter, et il en résulte 5 ou 7 points critiques dégénérés, catastrophes élémentaires, 5 si je suis dans 3 dimensions et 7 si je suis dans 4 dimensions. Et ces catastrophes sont stables et sont génériques. Alors tout à l'heure, je vous ai montré un peu la fameuse surface qu'on appelle la fronce, qui détermine par projection la fameuse cuspide, en V comme ça. Je vous l'ai fait en vous parlant d'une modélisation de la fibre cardiaque. Là, déjà, vous comprenez que un certain nombre de gens se sont saisis de ce modèle de référence pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses physiques ou non physiques. Et en fait, il y a 2 manières d'utiliser la théorie des catastrophes. C'est premièrement son emploi physique, d'où elle est née d'ailleurs, parce que René Thom est parti de l'étude des caustiques en optique géométrique. On y reviendra un peu avec quelques clichés. Mais aussi un emploi qu'il disait lui-même un peu métaphysique et qui permettait d'étendre ce langage, puisque en fait la théorie des catastrophes c'est un langage, c'est une modélisation des changements de forme, mais de l'étendre à l'embryologie, à la physiologie, à la psychologie, etc., à la linguistique, à l'histoire. Donc, ces deux manières d'utiliser la théorie des catastrophes sont extrêmement distinctes l'une de l'autre, sont extrêmement distinctes l'une de l'autre. Alors, du point de vue de l'emploi physique, la première chose qui a été faite, c'est ce qui ressort des propagations des fronts d'ondes. Et en particulier, je vous le disais, les caustiques, parce que dans les années 60, au début des années 60, René Thom, qui était à Strasbourg, en fait, a travaillé avec un de ses collègues pour étudier les phénomènes d'optique que vous pouvez observer tous les matins dans votre bol de café au lait, et vous verrez tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais c'est vraiment le départ de sa réflexion. Alors d'autres emplois assez rigoureux dans lesquels la théorie des catastrophes a trouvé à s'appliquer, ce qu'on appelle les formalismes lagrangiens, c'est-à-dire les trajectoires qui minimisent un certain nombre d'intégrales. Alors ça, on retrouve ça en économie mathématique, bon, dans tout un tas de choses. La théorie des bifurcations et les théories de changement de phase, que on connaît aussi assez bien en physique, quand on fait, même au lycée, on parle de ces choses-là. Au niveau de l'emploi métaphysique, on a parlé tout à l'heure de la fibre cardiaque, la fibre du cœur, mais bon, il y a eu aussi d'autres utilisations. Simplement, il faut bien distinguer ces deux manières différentes d'utiliser ce langage de théorie des catastrophes. Alors, sur l'optique géométrique, qu'est-ce que c'est, les caustiques? Eh bien, vous avez une casserole ici en bas, et les caustiques, eh bien, c'est ces points de surbrillance, où en fait, les rayons se conjuguent et se superposent selon un certain nombre de lois, dont vous avez sur le schéma ici, comment dire, la représentation. C'est des phénomènes que vous voyez non seulement dans votre verre ou dans votre bol de café, mais aussi au fond des piscines, comme ici, où vous voyez des rayons qui se conjuguent à certains moments. Et ces lignes sont en fait des singularités et de fronts d'onde, donc assez banales, mais qui correspondent à la description formelle donc des singularités telle que les présente la théorie des catastrophes. Alors, ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles en gravité, hein, donc quand on s'intéresse à la cosmologie, ou aussi, phénomène assez banal, les mirages, mirages en pays froid ou en pays chaud. Alors, la petite animation, là, je pense que vous voyez, c'est un peu une simulation qui vous montre la forme et ce que c'est qu'une enveloppe de courbe ici par rapport au rayon et à la loi optique de la réfraction sur un objet qui a une certaine forme. Alors tout ça correspond parfaitement bien à ce que décrit la théorie des catastrophes. Si la théorie des catastrophes, elle ne prévoit rien, elle ne prédit rien. Voici un autre, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est-à-dire c'est un travail fait par un physicien sur, justement, les lentilles gravitationnelles, et vous voyez qu'on retrouve ici la même courbe que nous avons vue tout à l'heure et qui peut représenter le passage, par exemple, de mon lac, hein, je pourrais très bien représenter mon petit lac de tout à l'heure, soit il tombe brutalement dans la vallée beaucoup plus bas et je passe ici la ligne de catastrophe, soit selon la modification du terrain, eh bien, il va couler tout doucement et prendre le virage ici, là, un peu comme dans une route qui descend en montagne, selon qu'on se situe, selon on fait varier selon les paramètres ici. Et simplement, sur cette diapositive, le physicien donc, vous indique que dans la surface ici dessinée par la cuspide, eh bien, on a trois solutions, c'est-à-dire trois images dont ici, il a calculé, au fond, les formules. RE, je crois que ça veut dire rayon d'Einstein ou quelque chose comme ça. Alors, les fronts d'onde ont été une source d'inspiration pour René Thom. En particulier, il a écrit quelques articles pour illustrer une théorie en psychologie d'un dénommé Harry Bloom, qui, pour lequel, si vous voulez, Harry Bloom se disait, mais au fond, comment l'esprit humain fait pour se saisir d'un objet ? Et sa théorie, c'était de dire, eh bien, on a par exemple un objet qui a une certaine forme extérieure, par exemple ici, et tout se passe comme si l'œil ou le cerveau humain émettait vers l'intérieur des ondes concentriques, mais qu'évidemment, compte tenu de la forme extérieure et de la propagation des ondes vers l'intérieur, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle des cut locus qui se déterminent à l'intérieur et qui dessinent des structures qui en résultent, donc ici à peu près une forme de Y, ici, voilà. Et en fait, il a bâti, son idée, c'était celle-là, c'est de se dire, ben, la reconnaissance des formes psychologiquement, pourquoi on prend un objet comme ça et pas n'importe comment, c'est parce que psychologiquement, notre œil ou notre cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il a un outil à l'intérieur, qu'on peut simuler par des fronts d'onde à l'intérieur de l'objet, qui nous permettent de savoir à l'avance qu'il vaut mieux prendre tel objet comme ça, c'est plus efficace. Voilà un exemple, si vous voulez, de ce à quoi peut servir la théorie des catastrophes. Et je veux dire, René Thom a écrit deux, trois choses là-dessus. Ça vous donne un peu une idée du caractère illustratif que cette théorie peut avoir. Et aussi, pourquoi, ben, pour d'autres, ça a généré quand même une certaine forme de colère, parce que, évidemment, on sort du cadre mathématique pur avec ce genre d'utilisation. Alors, autre utilisation, là encore, on retourne chez Christopher Zeeman, mais qui a essayé de modéliser le comportement du chien qui, soumis donc à un certain nombre de stimulus, ben, soit attaque, soit se couche, soit se retire par peur. Donc. Et il a proposé de décomposer ce phénomène avec des paramètres qui sont la peur et la colère, ici, donc sur les axes montrés sur la surface, ici. Moyennant quoi, en faisant varier la peur et la colère, eh bien, on peut simuler en quelque sorte le comportement du chien dont vous voyez ici, je dirais, les schémas qui en résultent. C'est-à-dire que, ici, vous avez un chien qui attaque, ici, il ne fait que grogner. Selon l'importance que l'on accorde ou selon le degré d'intensité de tel ou tel paramètre, c'est-à-dire la colère ou la peur, eh bien, le comportement est un comportement de recul ou un comportement de retraite ou un comportement d'attaque. Et en faisant varier ces paramètres, on peut établir une correspondance assez étroite entre l'apparence en fait du chien menaçant ou tranquille ou peureux, et puis l'intensité de ces paramètres. Voilà encore une autre illustration. Une autre illustration de cette utilisation de la théorie des catastrophes en biologie, eh bien, vous avez ici un biologiste qui a étudié comment une levure peut avoir, selon l'intensité de tel ou tel paramètre, paramètre dont la variation est quantifiée, soit votre levure, elle a une forme filamenteuse, et à ce moment-là, la trajectoire du système suit cette flèche-là, soit la levure prend une forme de sphère parce que la quantité d'oxygène varie, soit parce que ça prend plus ou moins de temps. Donc c'est un chronométrage au fond, cet axe-là. Et en fait, vous voyez à nouveau apparaître la fameuse France qui détermine un certain nombre de points et une certaine qualité d'évolution du système, soit de manière continue parce qu'on se situe dans cette partie-là du gradient d'oxygène, soit à ce moment-là, le passage d'une forme à l'autre se fait brutalement parce qu'on se trouve plutôt dans cette partie basse du même gradient, à condition d'avoir attendu assez longtemps, puisqu'ici vous avez l'échelle des temps, et voilà, mais je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Alors, pour résumer cette utilisation, cet ensemble d'utilisation de la théorie des catastrophes, disons que Christopher Zeeman, donc toujours lui qui a popularisé la théorie des catastrophes, s'est mis en tête, si vous voulez, de considérer un système comme une boîte noire, c'est-à-dire sans préjugés particuliers par rapport aux paramètres internes qui régissent un tel système à observer. Il a simplement considéré qu'on excitait un tel système avec des paramètres extérieurs, il les a mesurés, il les a choisis, et il a simplement observé l'évolution de ce système, et ce sont les sorties. Et vous savez ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est-à-dire que tout bonnement, sur un axe, on détermine un nuage de points qui sont censés établir les correspondances à chaque fois qu'une mesure est établie. Il a généralisé cette manière de faire et utilisé la théorie des catastrophes pour proposer de l'utiliser en disant, au fond, une morphologie, on l'observe. On l'observe, on ne sait pas ce qu'elle a à l'intérieur, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais en fonction de ces réactions, en fonction de ces changements soudains, eh bien, le problème pour nous qui étudions ce système, c'est de trouver la dynamique sous-jacente qui soit la plus simple possible et qui permette de l'engendrer. Et il a utilisé simplement cet alphabet de catastrophes pour essayer de retrouver, de redessiner à rebours, comme on dirait à rebours, au fond, cette dynamique source. Et je crois qu'on peut dire que c'est la raison pour laquelle, en fait, la théorie des catastrophes, utilisée de cette manière-là, en fait, justifie qu'on appelle ça une théorie de l'analogie. Parce qu'en fait, on simule un phénomène avec la théorie des catastrophes qui constitue son outil. Donc on simule, et en même temps, comme dans les quatre dimensions habituelles dans lesquels on travaille, il n'y a pour expliquer un changement de morphologie que cette famille de catastrophes, alors la tentation est grande de dire on va utiliser cette famille de catastrophes comme un alphabet susceptible de décrire tout ce qui peut arriver comme changement de forme jusqu'à la quatrième dimension. Alors, voilà, grosso modo, comment on peut présenter la théorie des catastrophes, me semble-t-il. Alors, quels espoirs, pour qui, pourquoi, et on va essayer de répondre à cette question et on va essayer d'actualiser. Alors, au-delà d'une castration fondamentale, pourquoi j'ai mis ce titre-là? Tout simplement parce qu'en mathématiques, il y a des choses dont on sait que elles sont inatteignables. Bon, je crois qu'avec Jean-Marc, vous parlerez du théorème de Gödel et des problèmes de l'incomplétude d'une algèbre généralisée. Mais Poincaré aussi a insisté sur le fait que, bon, il y a des calculs qu'on ne pourra jamais faire. Donc, il y a des choses qu'on sait en science, c'est que elles nous seront à jamais inaccessibles. Alors, on peut vivre ça comme une frustration. On peut s'en sortir en essayant, effectivement, de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, et de mettre du probabilisme pour s'en sortir. C'est peut-être, je dirais que c'est une phase que beaucoup ont passée. Mais au-delà d'une castration fondamentale, mais aussi au-delà d'une illusion, quant à la possibilité prédictive d'un modèle qualitatif, parce que ici, avec la théorie des catastrophes, on a un modèle qui n'est pas très commode pour mesurer, donc il ne peut pas nous permettre de prédire quoi que ce soit, mais il peut nous permettre d'exhiber un modèle, une simulation, de manière à ce qu'un phénomène nous dise quelque chose. Ça me parle. À titre personnel, je dirais qu'il y a des phénomènes qui me paraissaient incompréhensibles, et une fois qu'on les simule avec un modèle du genre de celui que je viens de vous présenter, tout d'un coup, quand même, à l'intelligence humaine, ça lui dit quand même quelque chose. Et l'intelligence humaine a l'impression de progresser. Mais bon, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur là aussi, et savoir que la théorie des catastrophes, elle ne permettra probablement jamais de prédire des phénomènes à venir. Tout au plus pourra-t-elle nous dire ce à quoi on peut s'attendre, compte tenu du fait que, quels que soient les changements morphologiques qui peuvent apparaître dans les dimensions inférieures ou égales à 4, sous condition que la force qui s'y exerce soit une dynamique de gradient, eh bien, on doit quand même s'attendre à avoir cette famille d'accidents. Alors, il faut utiliser, on en parlait tout à l'heure avant que la conférence commence avec M. Caillé, en fait, bon, entre un positivisme très très rigoureux d'un côté, mais qui ne pourra jamais déboucher sur un savoir total, bon, et d'un autre côté, une situation où on pourrait considérer qu'on ne saura jamais rien non plus, la théorie des catastrophes, en fait, elle nous propose un modèle qui nous permet de cheminer un peu entre les deux et de ne pas trop perdre le moral quand même quand il s'agit de se dire eh ben, il faut qu'on essaye de comprendre quand même quelque chose de la réalité. Alors, la théorie des catastrophes, moi j'espère, puisqu'on est dans les espoirs, qu'il en sera pour vous comme pour moi, mais ça a été un nouveau vecteur de passion pour les mathématiques. Parce que ça a permis de comprendre que, en fait, il existait dans la boîte à outils du mathématicien des manières de comprendre la réalité qui peut-être plus proche de la géométrie, mais me permettait à titre personnel de visualiser un phénomène. Et c'est vrai que pour un certain nombre ici, on a été formé à l'algèbre, où on a appris les mathématiques essentiellement à base d'algèbre. Donc, je pense qu'un des espoirs, un des espoirs de la théorie des catastrophes, pour moi, c'est que ceux qui s'approchent de cet outil reprennent un intérêt renouvelé, et un intérêt renouvelé vis-à-vis de la mathématique en général. Alors, la théorie des catastrophes comme exigence intellectuelle personnelle. Eh bien, oui. S'intéresser, être passionné pour les mathématiques, eh bien, c'est malgré tout aussi faire un effort pour se mettre en état de comprendre ces exigences aussi de la mathématique, c'est-à-dire faire un travail sur soi pour rationaliser sa pensée, pour essayer de la couler dans des moules plus cohérents, structurés, avec un langage qui est précis, avec des méthodes. La voie moyenne que représente la théorie des catastrophes comme vecteur d'impulsion de recherche nouvelle, Ben, on a déjà les précédents historiques, c'est-à-dire que quand on regarde ce à quoi a donné naissance la théorie des catastrophes, malgré les disputes auxquelles elle a donné, et peut-être grâce aux disputes auxquelles elle a donné naissance, eh bien, vous avez eu à ce moment-là tout un travail qui s'est fait autour de la théorie des singularités, des applications différenciables, en particulier avec Vladimir Arnold à l'époque. Mais vous avez eu aussi pas mal de travaux sur la singularité des formes différentielles, les théories de la bifurcation et la structure des attracteurs en dynamique qualitative. Et si vous lisez les travaux, par exemple, de David Ruelle, qui a beaucoup travaillé sur le chaos, qui est en fait un des pères, ou le père, je dirais, de ce qu'on appelle les systèmes sensitifs aux conditions initiales, eh bien, en fait, sa réflexion à lui est née dans ce creuset où apparaissent des noms comme Stefan Smale ou d'autres mathématiciens qui travaillaient aussi sur ces sujets-là et René Taube qui a été au fond un des personnages qui lui ont apporté tout ce bagage, tout ce type de réflexion très utile à l'émergence de cette pensée qu'on appelle aujourd'hui la pensée du chaos. La théorie des catastrophes aussi comme structuration rationnelle du flair méthodologique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je veux dire par là que quand on découvre un phénomène, a priori il y a quantité de paramètres qui jouent sur un système ou sur un objet. Et que quelquefois on est bien ennuyé pour faire un choix. Quel est le bon candidat? Quel est au fond, qu'est-ce que je vais retenir comme paramètre pour essayer de simuler le comportement de son évolution à l'aide de la dynamique continue sous-jacente et de ces fameuses sept familles de catastrophes qui sont supposées se cacher derrière ces changements. Eh bien, moi je crois, enfin, en tout cas c'est mon expérience, que le fait d'approcher la théorie des catastrophes sous cette présentation, eh bien c'est une aide très très précieuse pour faire son marché parmi les paramètres qui doivent jouer sur un système et contrôler les changements de forme de ce système. Et là, je crois que tout à l'heure, je l'ai dit, je ne l'ai pas commenté, mais c'est passé dans une remarque sur un des slides, mais je pense que, en particulier, quand des chercheurs ou quand des savants ont un recul sur un domaine, et qu'ils sont perdus en se disant, un peu comme disait Fernand Reynaud, tiens, je vais tenter le coup ici, parce que on ne sait pas a priori comment, par quel bout prendre notre problème, par quel bout l'attaquer. Eh bien, moi je suis persuadé que la théorie des catastrophes, eh bien, justement, elle est un outil irremplaçable pour hiérarchiser l'attaque d'un problème, et donc pour rendre plus efficaces, au fond, les résultats d'une recherche. Parce que si la théorie des catastrophes ne permet pas de prédire ce qui va se passer, eh bien, en tout cas, je crois qu'elle aide à deviner ce à quoi on peut s'attendre. Et ça, c'est déjà énorme. Alors, c'est une voie humble. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, c'est pas une théorie scientifique, hein, comme la gravitation, comme la théorie de l'évolution. Elle est un peu sur le même plan que la psychanalyse, parce que rien n'est vérifiable. Donc ça, c'est des choses dont René Taube avait totalement conscience. Alors, Christopher Zeeman n'était pas tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il essayait malgré tout de quantifier les phénomènes par le biais statistique, donc en faisant des calculs probabiliste pour essayer de ramener une lecture qualitative et une lecture beaucoup plus quantitative. Alors ce n'est pas une théorie de la mathématique non plus, mais c'est une théorie qui utilise un langage mathématique, donc qui a ses exigences et qui délivre un certain nombre de passions, en tout cas j'essaye de vous le faire comprendre. Et cette fameuse théorie des catastrophes c'est automatiquement posée dans une situation un peu inconfortable, parce que d'un côté elle a été rejetée par les positivistes purs et durs,
qui lui ont toujours reproché son incapacité à admettre un strict contrôle expérimental, et elle a été aussi rejetée par les mathématiciens purs, parce que, bon, elle est quelque chose qui manque de rigueur, une rigueur que recherchent les mathématiciens purs. Et surtout parce qu'elle est quelque chose qui permet de comprendre la réalité, et que beaucoup de mathématiciens sont plutôt dans la recherche, ils sont plutôt dans une mathématique qui a ses propres lois internes intrinsèques. Et les objets mathématiques jouent ensemble. Je pense que vous le verrez dans les problèmes d'algèbre, dans les problèmes de logique. Et la théorie des catastrophes sort un peu de ce schéma-là. Elle se mouille dans le réel. Et donc, elle ne s'applique pas à ceux qui sont un peu plus puristes. Alors, la théorie des catastrophes est aussi valable sous réserve. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle donne des choses intéressantes, mais sous certaines conditions. Et en particulier que le système qu'on étudie soit sous le régime d'une dynamique de gradient, qui est quand même quelque chose de très particulier, parce que toutes les dynamiques ne sont pas de ce type. C'est une voie humble aussi, parce que René Thom a toujours assigné à la science la tâche de rendre le monde intelligible. Donc on a parlé d'intelligibilité au départ. Donc son objectif, je veux dire son projet, c'était d'être une science. La science doit être un outil pour comprendre les choses de la réalité, comment ça marche, comment ça change. Et le respect qu'il a eu vis-à-vis de ce principe n'a jamais été démenti. Donc je dirais que c'était quelqu'un qui était très proche du souci que les gens peuvent avoir de la compréhension, de l'intelligibilité des choses du monde. Alors pour rendre quelque chose, pour rendre compte de quelque chose que l'on voit dans l'univers qui nous entoure, eh bien, les mathématiciens ont deux outils. Ce qui permet de passer du local au global, c'est ce qu'on appelle le prolongement analytique. Et, à l'inverse, ce qui permet de passer du global au local, c'est-à-dire la singularité, c'est la singularité dans une forme, c'est ce qui lui donne une qualification. Un peu comme un trait particulier du visage de quelqu'un qui vous permettra de ne pas le confondre sous réserve des jumeaux parfaits. Mais voilà, la singularité, c'est ce petit détail qui fait que, en fait, vous reconnaissez à sa simple lecture, vous savez, vous pouvez reconstituer la forme et vous pouvez reconstituer la personne dans sa totalité. Ça, c'est la vertu potentielle de la singularité. Enfin, le projet que René Thom a signé aussi à la théorie des catastrophes, c'est un petit peu de boucher le trou qui existe entre le langage naturel et le langage mathématique. Bon, les mathématiques en physique, vous l'avez expérimenté dans vos formations, ça permet de faire des calculs et des opérations qui ne sont pas à la portée du langage courant. Et à l'inverse, René Thom cherchait un peu à utiliser cette théorie des catastrophes pour. Il a publié beaucoup d'études et il a sorti pas mal de papiers là-dessus. Il a essayé d'utiliser, au fond, ces modèles de la morphogenèse, comme il appelait ça, pour essayer de géométriser la pensée verbale. Et donc, il s'intéressait énormément à ses biologies, à la sémantique, à la recherche des langues. Alors moi, mon grand espoir personnel concernant la théorie des catastrophes, elle est un peu sociologique aussi, je dois l'avouer, c'est que je pense qu'on est, avec cet outil-là, en position de quelque chose qui peut nous permettre de combler ou de commencer à combler une brèche qui existe entre, d'un côté, je dirais, les gens qui défendent le positivisme strict, et de l'autre côté, les gens qui se laissent aller à l'analogisme déstructuré. Et je crois que là, ce genre d'outil peut nous permettre, au milieu, on parlait tout à l'heure de voie moyenne, c'est vraiment un outil qui nous permet au milieu, à la fois de montrer aux gens qui sont des gens de science pure, que l'analogie c'est intéressant, et ça peut permettre de faire quelque chose qui n'est pas n'importe quoi, et en même temps, de faire comprendre aussi aux gens qui utilisent, je dirais, intempestivement l'analogie, que l'analogie a aussi ses exigences formelles. Et qu'en tout cas, aujourd'hui, on dispose d'un appareillage, d'une boîte à outils, qui doit nous permettre, je ne dirais pas de réconcilier et de rapprocher les points de vue, mais en tout cas de travailler un peu entre les deux. Et de proposer une lecture un petit peu plus réconciliatrice des points de ces points de vue. La maîtrise du monde et le réenchantement du monde doivent aller de pair. Bon, ça, moi je trouve que c'est un témoignage, hein, c'est pas une démonstration. Mais franchement, moi, l'approche de cette manière de comprendre la réalité a pour moi été un vecteur de réenchantement. Le réenchantement des mathématiques, parce que j'aimais pas du tout ça. Une forme de réenchantement du monde aussi, parce que ça permet d'admirer un certain nombre de choses. Et puis, un goût, moi je me suis retrouvé à faire 8 heures de mathématiques, 10 heures par semaine, le soir à la bougie, parce que je me suis dit, franchement, ça vaut le coup. Et ce qui m'a fait accepter la proposition de ce soir, donc ça vaut le coup de faire passer ce message. Et j'espère que j'y suis arrivé. Alors je vais vous dire 2-3 mots sur l'IHES, parce qu'en fait, si René Thom a pu bâtir tout ce que j'ai essayé de vous présenter un peu maladroitement ce soir, c'est que je crois qu'il l'a pu parce qu'il a bénéficié d'un certain type d'environnement. L'environnement, c'est l'Institut des hautes études scientifiques à Bure. Voilà. Et dans cet environnement, il a pu donner le maximum de ce qui était en puissance, en fait, au moment où il a arrêté de faire vraiment des mathématiques de haut niveau, au début des années 60. Donc après 1964 à peu près, il a, durant 20 ans, 25 ans, il a pu produire toutes. Il a pu, je dirais, mettre en place toute sa production intellectuelle qui a donné un certain nombre d'ouvrages comme Stabilité structurelle et morphogénèse, Modèle mathématique de la morphogénèse. Bon, énormément de participants. Il y a une production intellectuelle qui est absolument énorme que vous pouvez vous procurer d'ailleurs parce qu'un CD-ROM a été édité à l'IHES pour vous permettre de lire ce qu'il a fait, qu'il a produit en termes de réflexion dans la psychologie, dans la biologie, dans l'embryologie. Enfin, ses œuvres complètes sont disponibles. Et c'est vraiment dans cet institut des hautes études scientifiques, c'est cet institut qui lui a permis de déployer, au fond, toute sa pensée. Et toute sa pensée dont on peut aujourd'hui profiter. Et je crois qu'il faut le souligner. À l'heure actuelle, vous avez 2 grands centres mathématiques et physique théorique au monde. Vous avez Princeton aux États-Unis et puis Bure, l'IHES. Et ce que nous essayons de faire, c'est un petit peu de sensibiliser tout le monde en disant, voilà, la recherche mathématique en Europe, c'est essentiellement Bure-sur-Yvette. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu scandaleux, c'est que c'est les Américains qui deviennent les bailleurs de fonds de cet établissement. Donc il serait pas mauvais, il serait pas mal que on puisse avoir aussi notre participation et qu'on puisse financer cet institut de manière autonome. Historiquement, l'IHES est fait pour les mathématiciens, pour les physiciens théoriciens et pour ce qu'on appelle la méthodologie des sciences de l'homme. Donc son fondateur avait assigné à l'institut ces 3 directions. Et en fait, René Thom il a occupé la chaire de méthodologie et sciences de l'homme pendant à peu près 25 ans. Aujourd'hui, il n'y a personne. Parce que vous comprendrez que pour lui succéder, c'est peut-être pas si évident que ça. Et puis ensuite, pour avoir l'ampleur de la connaissance que ça requiert, on peut pas, ça se trouve pas forcément sous le sabot d'un cheval. Cet institut avait été créé par Léon Motchan après la Deuxième Guerre mondiale. C'était justement pour retenir la fuite des cerveaux. Parce qu'évidemment, déjà avec la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de savants, à commencer par Einstein, et Gödel, et puis un certain nombre d'autres, sont partis aux États-Unis. Et Léon Motchan s'est battu avec quelques-uns. C'était vraiment un travail très artisanal au départ pour essayer de créer, de fixer sur le sol européen un lieu où les savants mathématiciens et physiciens puissent venir travailler et créer un pôle compétitif et un peu concurrentiel, mais c'est toujours très amical parce que la plupart du temps, les mathématiciens sont allés et à Princeton ou à la Bure et ils sont allés et revenus. Et de toute façon, c'est quelque chose qui mérite d'être approfondi et visité. Le principe de l'EIHES, c'est que la liberté donnée au génie humain de s'exprimer sans contrainte est la meilleure garantie d'une avancée de la connaissance. Voilà, je crois que j'ai terminé. Mais... Merci beaucoup.